Mais donnez-y une bière.
Quelqu'un? 92.5 Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Vous voulez faire partie de votre communauté? Devenez membre de votre station préférée en vous procurant votre carte de membre au coût de 5$. En tant que membre, vous aurez droit de vote aux assemblées générales. La carte de membre est disponible au bureau du 92.5 Jonquière et chez Gillo Music, Alma.
Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Pièce d'auto Sainte-Geneviève est fière de vous présenter l'émission Réveillez-vous. Pièce d'auto Sainte-Geneviève, une identité régionale depuis 28 ans. 4 points de vente au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec un site 100% transactionnel. Pièce d'auto Sainte-Geneviève vous souhaite une bonne émission.
Pour partir la journée du bon pied, le 92.5 vous accompagne dans la bonne humeur et vous livre toute l'actualité. Avec Dominique Bolduc, Pat Bouchard et Éric Lavoie. Voici votre émission matinale.
Mercredi 13 novembre 2024, 6h01. Vous êtes à Réveillez-vous 92.5. Un bon début de journée avec un mercure actuel de moins 6 degrés. Ciel dégagé qui va demeurer dégagé pour aujourd'hui et également pour demain. Avec des mercures qui vont frôler le point de congélation, mais des nuits quand même assez froides.
Hein, ouais,
qui devraient descendre en bas des moins 10.
On a le moins 6 ce matin, moins 7 avec l'hiver, ça paraît.
Pat Bouchard qui est là, Éric Lavoie qui sera avec nous dans une trentaine de minutes. Dom Bolduc pour vous accueillir jusqu'à 9h en ce mercredi où on vous dévoilera le deuxième volet de notre sondage sur l'actualité politique à Saguenay. Il sera question des frais d'avocat et des frais juridiques qui sont mêlés évidemment avec la ville et la mairesse. On vous a posé des questions là-dessus et on va vous donner les résultats avec Rénal Darvé de Segma Recherche qui a fait donc ce sondage. Donc Segma, le 92.5 et le Réveil. On aura jusqu'à lundi prochain
exact.
Pour vous donner des résultats.
Les sondages sont à la mode ces temps-ci.
Oui.
Parce qu'il y a moins d'actualité. D'ailleurs, il y a des sondages au fédéral et
au provincial.
Et d'ailleurs, hier, il y avait conseil d'arrondissement Jonquière et Jimmy Bouchard a annoncé qu'il ne se présenterait pas aux prochaines élections municipales parce qu'il y a des rumeurs qui se présenteraient
Pour
le Parti québécois au provincial.
Oui, exactement. Donc, c'était pas un secret. Ben, en fait, c'est un secret.
C'est un secret que nous, on savait.
Qu'on
se doutait qu'on ne disait pas parce qu'on n'avait pas la confirmation. Maintenant, il l'a confirmé.
Il l'a confirmé. Donc, il ne sera pas de retour aux prochaines élections municipales qui auront lieu en novembre 2025. Donc, il a fait cette déclaration hier soir lors d'une réunion du conseil d'arrondissement de Jonquière, dont il est le vice-président. Lui qui est également président des commissions du développement durable et de l'environnement et celle des travaux publics de la ville a été élu pour la première fois lors d'une partielle en 2019 lorsque Jonathan Tremblay avait décidé de quitter son poste pour retourner dans l'éducation. On dit que ça faisait quand même plusieurs mois qu'il y réfléchissait et il a pris la décision dernièrement là, de ne pas solliciter un nouveau mandat. Il dit qu'il voulait l'annoncer le mois dernier, à peu près un an avant les prochaines élections, mais avec ce qui est arrivé dans l'actualité, je vais attendre un petit peu, ça ne presse pas. Il se dit fier du travail qu'il accomplit à ce poste. C'est une des expériences les plus valorisantes qu'il a eu à vivre depuis longtemps, depuis le début de sa carrière professionnelle. Il s'est également dit ouvert à accompagner les potentiels candidats pour les guider vers le processus électoral. On sait que les prochaines élections auront lieu le 2 novembre 2025. Donc, pour le district numéro 1, ce sera un tout nouveau candidat qui sera élu de ce côté-là. On parlait de sondage léger, rien ne va plus pour la CAQ et François Legault, dont les appuis sont revenus à un plancher jamais atteint depuis 8 ans. Donc, ce dernier sondage démontre également que le Parti québécois poursuit son ascension. Alors, on dit qu'avec 21% des intentions de vote, la CAQ affiche aujourd'hui le même score qu'au printemps 2016, soit 2 ans avant son arrivée au pouvoir, alors qu'il commençait à monter. Le gouvernement caquiste qui avait amorcé une légère remontée durant l'été, après avoir atteint un premier creux là, au printemps, mais sa rentrée parlementaire difficile l'a ramené au point de départ. Taux de satisfaction qui connaît également un recul de 6 points et se retrouve maintenant à 32%. Donc, c'est vraiment un passage à vide. Et c'est Paul Saint-Pierre Plamondon qui est allé chercher ces points-là avec 35% alors qu'il était à 32% lors du dernier sondage. La CAQ passe de 24 à 21. Statu quo pour le Parti libéral, même si, bon, ça brasse beaucoup pour le prochain chef. Pour l'instant, ça ne bouge pas. On est à 17 % Baisse d'un point pour les solitaires de Gabriel Nadeau-Dubois, de 14 à 13. Et également, baisse d'un point pour les conservateurs, qui passent de 12 à 11. Alors, vraiment un passage à vide du côté du gouvernement. Donc, on dit partout en Occident, les gouvernements au pouvoir sont dans une période post-pandémique. Ils ont moins d'argent, dur à gérer, il y a plein de problèmes à réparer, et c'est là pourquoi ils sont bas.
L'inflation qui a fait élire Donald Trump, mais c'est drôle parce que l'inflation fait tomber tous les gouvernements, mais l'inflation est mondiale.
C'est ça.
C'est pas aucun gouvernement qui en est responsable, c'est l'économie mondiale. C'est ça qui me fait rire. Ton lapsus était-il fait exprès ou...
Qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit solitaire.
Pour, ah ouais?
Québec solidaire.
Solidaire. Mes excuses, mais c'est vrai qu'ils sont un peu solitaires.
Présentement, oui.
Également, bien, sur la question appui à la souveraineté du Québec, on dit si un référendum avait lieu sur la souveraineté du Québec, voteriez-vous pour ou contre la souveraineté? Ça n'a pas vraiment bougé. 37 pour, 55 % contre, 8% qui ont refusé de répondre. Donc, c'est quand même serré, mais on a encore un avantage de gens qui... ne sont pas ouverts à la souveraineté du Québec. Et le taux de satisfaction envers le gouvernement de François Legault donc continue de baisser. Donc, comme je mentionnais, a perdu 6 points, passant de 38 % de satisfaction à 32. Et le taux d'insatisfaction lui a monté de 5, donc passant de 56 à 61 %. Également, on dit que la notoriété de Denis Coderre pourrait jouer contre lui dans la course à la chefferie du Parti libéral, alors que ceux qui ont une mauvaise opinion de l'ancien maire de Montréal s'élèvent à 55 %. C'est quand même assez élevé. Même au sein des électeurs libéraux, sa cote d'amour est d'à peine 30 %, alors que 52 % ont une opinion défavorable. Avec son long parcours en politique, tant sur la scène fédérale que municipale, on dit que ça sera difficile pour lui de se redéfinir aux yeux de l'électorat. À l'inverse, son principal adversaire, Pablo Rodriguez, déplaît à seulement 18 % des répondants, contre 37 qui l'apprécient. Mais surtout, il demeure méconnu de 46 % des Québécois. Il va falloir qu'il se fasse connaître. Donc, il y a encore le temps de faire charmer, évidemment, ces gens-là. L'ex-ministre fédéral demeure également le plus à même de donner un nouveau souffle au PLQ. 26 % des électeurs voteraient pour la formation s'il en prend les rênes, contre 20 % avec Denis Coderre à la tête. C'est quand même serré, là, 26-20.
Mais à noter que c'est un sondage web.
Oui.
Donc, on dit qu'il n'est pas possible de calculer une marge d'erreur sur un échantillon d'un panel du genre.
Ouais.
C'est pas un sondage comme le nôtre là, ou le dernier Somme aussi qui était... Non, Somme était aussi
était sur Internet.
Le nôtre est par téléphone. C'est un peu plus... on peut calculer une marge d'erreur et c'est plus précis maintenant.
Ouais. Au niveau fédéral, ben, les libéraux continuent de perdre des plumes, si bien que Justin Trudeau lutte maintenant pour la deuxième place contre les conservateurs de Pierre Poilievre qui s'approchent de la zone payante.
Au Québec.
Au Québec, évidemment. Exactement.
Parce qu'au Canada, Poilievre est en avance.
Ah, littéralement, oui. Le Bloc québécois qui trône toujours en tête à 35 % de vote au Québec, selon ce sondage léger, le journal TVA. Les appuis du Parti souverainiste sont donc stabilisés après une importante poussée depuis la fin de l'été. Une bonne performance qui lui a permis de soutirer contre toute attente le château fort libéral de la salle Aymar-Verdun à la mi-septembre lors d'une partielle. Donc, loin derrière lui, libéraux et conservateurs se livrent une chaude lutte, pour la deuxième place. Les troupes de Justin Trudeau qui continuent de saigner vraiment au Québec là, parce qu'ils ont perdu 5 points de pourcentage depuis un mois dans les intentions de vote et se retrouvent maintenant troisième à 22 %. Les conservateurs, eux, ont gagné 2 points, se retrouvent à 24 et le NPD... Les néo-démocrates ont également gagné 2 points, se retrouvent seulement à 13 %. On dit que ce sont vraiment les jeunes qui supportent
les conservateurs.
Exactement. On dit que c'est une tendance qui est observée ailleurs également au pays, mais évidemment aux États-Unis, avec la victoire de Donald Trump. Chez les 18-34 ans, les conservateurs surperforment avec 33 % des appuis. On dit que ce soit à droite avec les conservateurs ou à gauche avec le NPD, le vote des jeunes est orienté vers le changement, littéralement. Et aussi, ben, les difficultés du gouvernement Trudeau dans les intentions de vote se traduisent dans le taux d'insatisfaction qui atteint 60% au Québec. Pour ce qui est de, en fait, de qui ferait le meilleur premier ministre, Justin Trudeau et Pierre Poilievre sont à égalité à 20% de chaque côté. Et au niveau là, des intentions de vote au fédéral, donc comme on mentionnait, 35% pour les bloquistes. Là, on est vraiment concentré au niveau du Québec. Mais on sait qu'au niveau du Canada, les conservateurs sont loin devant.
Ce qui me surprend
libéraux.
Que Poilievre ne défasse pas le gouvernement présentement parce que, il n'y a pas besoin du Québec pour être élu.
Non.
Il y a besoin de l'Ontario.
Oui.
Et en voyant le Bloc québécois en avance au Québec, ça lui assure que les libéraux ne prendront pas trop du siège au Québec. Donc,
exactement.
Ça pourrait lui donner un gouvernement, ne serait-ce que minoritaire, mais au pire, faire une alliance avec le Bloc québécois par la suite. Quoi que ce soit, je ne sais pas, mais ça me surprend que ce ne soit pas encore fait. D'ailleurs, François Blanchet, évidemment, lui, avec les chiffres qu'il a là, il demande depuis une semaine.
Absolument.
Parce que lui, ce serait le grand gagnant de tout ça au Québec. Là.
Tout à fait, tout à fait. Puis là, on le voit vraiment, là, avec... c'était hier, je pense, qu'on a vu passer ça à la télévision, là, que, pas Poilievre, mais Blanchet presse Poilievre de faire tomber le gouvernement. Là. On voit vraiment les bloquistes qui sont prêts, plus que jamais, donc, à aller en élection et aller chercher, et peut-être agrandir là, son nombre. Je pense qu'on est une trentaine,
ouais.
Je pense que c'est 32 sièges du côté du Bloc. Est-ce qu'on pourrait monter, atteindre peut-être la quarantaine, peut-être même la cinquantaine, comme on a déjà eu? Ça pourrait être une possibilité. Évidemment, on irait gruger, probablement chez les libéraux, ce genre de...
Oui, c'est ça. Ça risque plus d'être chez les libéraux que chez les conservateurs aussi. Là.
Oui, tout à fait. Hier, il y a eu rencontre entre Saguenay et les commerçants concernant l'autogare du Havre, donc la ville qui envisage la démolition de l'autogare, ce qui soulève vraiment des questions pour plusieurs d'entre eux. Une soixantaine de commerçants du centre-ville qui se sont déplacés à l'hôtel Chicoutimi lors d'un dîner rencontre avec la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, qui a mentionné qu'aucune décision officielle n'a été prise concernant l'autogare du Havre. Assurant également que les analyses sont toujours en cours afin de prendre les meilleures décisions. Ce qu'elle mentionnait, c'est qu'ils ont déjà le coût d'une restauration de l'autogare. Ils vont partir en appel d'offres pour avoir le coût d'une déconstruction pour faire le choix entre une rénovation ou la démolition, tout simplement. Au-delà de l'autogare lui-même, il y a une étude qui a été donnée pour le stationnement dans tout le centre-ville parce qu'on comprend là, que dans 15 ans, on va être pas mal plus de monde habité dans le centre-ville si, évidemment, les développements vont en ce sens. Le conseiller Marc Bouchard qui soutient, quant à lui, que la ville tient également à ce qu'aucun espace de stationnement ne soit perdu et veut éviter que les commerçants et les citoyens soient pénalisés. On dit que s'il y a du stationnement qui doit être démoli ou rénové et dont on doit perdre l'accès, il y en aura d'autres ailleurs qui vont être prévus ou des mesures correctives là, pour que les clients des commerçants aient accès à des stationnements d'une manière raisonnable dans le centre-ville. Donc, plusieurs commerçants qui étaient là, dont Catherine Morissette, à qui on a discuté hier. On a eu un petit retour, là, et on va laisser Éric nous en parler à son arrivée tout à l'heure. Mais bon, il y a eu une rencontre avec les gens de la ville. Il en faut, parce que, évidemment, les commerçants ont énormément de questions et d'inquiétudes.
Ben oui.
Mais bon, on n'a pas de décision de prise du côté de la ville. Ça, c'est le côté positif. Il va falloir en prendre, par exemple, mais à un moment donné, il va falloir que ça avance aussi. Là. Ça traîne. L'autogare, qui on sait, il y a quelques années, avait dit ben, il est dû pour des travaux. Là. Il est dû pour être rénové. Là, est-ce qu'on va le changer au complet? Il va falloir que ça avance.
Ben oui, parce que là, plus on attend, plus ça va coûter cher.
En plus, ça, tu as raison là-dessus. Dans quelques instants, nous irons avec les petites vites de Jean-Claude Gélinas, rappelant que Luc Boivin sera avec nous ce matin. Évidemment, je pense qu'il va revenir sur le sondage. Évidemment, le taux d'insatisfaction, vous rappelle, hier sur notre sondage, à 78%. Les gens sont insatisfaits du travail de la mairesse Julie Dufour. Et à 55%, ils sont satisfaits du travail de leur conseiller. Ça, c'est une baisse quand même assez remarquée.
Oui.
Et 55-45 pour la satisfaction.
Et à noter qu'à Chicoutimi, c'est...
C'est 43% de satisfaction. Alors qu'à Jonquière, on est à 67. Et l'Abbé, on est à 55. Donc, c'est vraiment là, ce côté-là qui frappe fort dans ce sondage. Également, ben, l'autre question, est-ce que la mairesse aurait dû se retirer le temps des procédures judiciaires? Eh bien, 75%, 3 Saguenayens sur 4 pensent que la mairesse aurait dû se retirer le temps de subir son procès. Alors, c'est un peu ça les grandes lignes qu'on avait hier. Aujourd'hui, ben, il est question de frais juridiques. Alors, on a posé la question, pensez-vous que la ville devrait payer les frais juridiques de la défense de Julie Dufour dans sa contestation des constats d'infraction du directeur général des élections? Également, on a posé la question, si la ville décide de ne pas payer ses frais d'avocat au départ, seriez-vous favorable à ce que la ville s'engage à les payer à la fin des procédures si elle est déclarée non coupable? Alors, on aura les résultats donc un peu plus tard, aux alentours de 8 heures, avec Rénal Darvé de Segment Recherche. Et on s'en va.
Ah ben, si c'est pas André, mon ami, tu tombes pile poil.
Hey, JB, salutations, mon ami.
Moi, puis les mathématiques, j'ai besoin d'un coup de main de mon mathématicien préféré.
Toujours là pour aider.
Super. Alors, 2 plus 2 moins 3.1, ça fait quoi, mon André?
Ben, normalement, 0.9.
Aïe, aïe, aïe. Pour novembre, Hyundai offre maintenant les taux à partir de 0.9% sur la IONIQ 5. J'espère qu'on n'en manquera pas.
Sans compter la subvention de 12 000 $ Wow! Quelle aubaine!
Incroyable! 0.9% à l'achat ou encore 110 $ par semaine. Zéro comptant. Fini l'essence et la paix d'esprit.
Faut juste pas en manquer.
Venez adhérer à plus chez Hyundai du Saguenay, boulevard René Lévesque, Jonquière.
Je demanderai à la cour de se lever pendant le jugement. Je déclare l'accusé coupable. L'accusé non coupable.
Renverser un jugement. Vos lettres peuvent faire pression sur les autorités et contribuer à libérer une personne injustement emprisonnée. Écrire, ça libère. Visitez amnesty.ca.
Trium Média, en collaboration avec le 92.5 et Hyundai du Saguenay, vous amène au Canadien de Montréal. Le 21 janvier 2025, courez la chance de remporter une paire de billets dans la section Desjardins pour le match du 21 janvier 2025 entre le Canadien de Montréal et le Lightning de Tampa Bay, avec accès à la nouvelle loge Desjardins, incluant buffet et bar ouvert. Le tout d'une valeur de 1600 $ Pour participer et devenir finaliste, écoutez l'émission dans le vestiaire dès 15h30 du lundi au vendredi. Au signal, appelez en studio et répondez correctement à la question du jour à propos du Canadien de Montréal. Le tirage sera fait le vendredi 29 novembre prochain. Allez encourager le bleu, blanc, rouge avec Trium Média, le 92.5 et Hyundai du Saguenay. Go, Habs, go!
Bonjour à tous, ici Alain Plante. Le rendez-vous incontournable des amateurs de bonne musique, des travailleurs de nuit et des insomniaques, c'est Cargo Nuit 100% live, du mardi au vendredi de minuit à 6h. Du mardi au jeudi, toujours le meilleur de la pop et du rock, avec 45 minutes ultra musicales au début de chaque heure. Le vendredi, place à la Métrothèque, avec les plus gros succès des années 70 à 2000. Et de 5h à 6h, c'est Cargo au réveil, avec la meilleure musique du country, agrémentée de la météo, des sports et de la une des journaux et des sites web. Et vos demandes spéciales sont toujours les détenues au 88 82 92 50. Soyez au rendez-vous de Cargo Nuit 100% live, du mardi au vendredi dès minuit, seulement au 92.5, ma radio d'ici.
Le sport, presque une religion, plus qu'une passion. Place au sport avec Dominique Bolduc.
Eh bien, pour les Pouleurs, probablement que ça a été une soirée payante pour certains, et surtout pour les fans de Connor McDavid, qui a entamé son match de mardi soir avec 995 points au compteur. Mmh. Le cap des 1000 semblait un objectif réalistement atteignable en 2 ou 3 affrontements pour lui qui s'y connaissait quand même des bonnes sorties. Ben hier, il s'est assuré que le prestigieux plateau soit dans sa ligne de mire dès sa prochaine rencontre. Dans une victoire de 4-3 des Oilers en prolongation face aux Islanders de New York, il a réussi 4 points, soit un but et 3 passes. Et il affiche maintenant 999 points. En 658 rencontres seulement depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale. Après une première période sans but, McDavid s'est mis en marche et dès la 36e seconde de la deuxième, il a repéré en avantage numérique son complice et compagnon de trio, Leon Draisaitl, qui a fait vibrer les cordages lors d'un lancer sur réception. À égalité à 1-1 en troisième période, Evan Bouchard a procuré les devants à la troupe albertaine, son capitaine qui a récolté une autre mention d'aide sur la séquence. McDavid a pris les choses en main avec un peu moins de 10 minutes à faire à la troisième où il a coupé la sortie de zone des Highlanders. Et quelques secondes plus tard, il déjouait Ilya Sorokin d'un tir de l'enclave. Et encore une fois, les Highlanders ont créé l'égalité. Et en prolongation, ben, il a obtenu une passe sur le but gagnant. Donc, le capitaine des Oilers qui a maintenant 17 points en 13 matchs cette saison. Donc, 4 points hier. Il est maintenant à 999 points. Il aura la chance de s'offrir son 1000e point lors de la visite des Prédateurs de Nashville demain du côté d'Edmonton. Les Jets de Winnipeg, inarrêtables tout simplement. On prévoyait quand même un test difficile à relever pour les Jets. Ils l'ont remporté vraiment presque une main dans le dos au Madison Square Garden de New York contre les Rangers. La formation manitobaine qui a prouvé encore une fois pourquoi elle est la meilleure formation du circuit avec un gain de 6 à 3. Donc les Jets qui enregistrent une 7e victoire de suite et n'ont toujours encaissé qu'un seul revers en 16 matchs en ce début de saison. Donc une récolte de 30 points sur une possibilité de 32. C'est extraordinaire. Ils sont la première équipe dans l'histoire de la Ligue à présenter un dossier de 15 victoires et une seule défaite en début de saison. L'affrontement à New York promettait devant le filet avec d'un côté Connor Hellebuck, de l'autre Igor Shesterkin. Il est vrai cependant que le porte-couleur des Rangers avait des choses à prouver après avoir alloué 5 buts sur 12 lancés lors de son dernier départ face aux Sabres de Buffalo. Début de match qui n'a pas eu quoi rassurer les partisans à la des Rangers, alors que Mika Zibanejad a été victime d'un revirement le long de la rampe dès la première minute et Mark Scheifele s'est retrouvé seul devant le gardien et il l'a déjoué. Et là, ben, ça s'est poursuivi comme ça. Donc, victoire des Jets, une 15e en 16 matchs cette saison. Dans les autres rencontres, les Maple Leafs de Toronto qui ont été réduits au silence grâce à 3 buts des Sénateurs d'Ottawa dans les 4 premières minutes de la deuxième période. Ça se fut suffisant pour l'emporter 3 à 0. Tim Stutzel qui a profité d'une victoire convaincante pour se faire une petite place dans l'histoire des Sénateurs à son 300e match dans la Ligue avec un but dans la rencontre. Il a officiellement pris le 3e rang de l'histoire de l'organisation pour le plus de points par un joueur des Sénateurs à ses 300 premiers matchs dans la Ligue nationale. Il en compte 267. Il est également le premier joueur de l'équipe à avoir atteint le plateau des 20 points cette saison. Premier choix des Sénateurs en 2020, inscrit le 98e but de sa carrière. Il totalise, comme je mentionnais, 267 points. Seul Jason Spezza avec 326 et Alexis Yashin avec 273 ont fait mieux que lui à leur 300 premier duel. On a également les Devils New Jersey qui ont vaincu les Panthers de la Floride 4 à 1. Timo Meier qui a déjoué Spencer Knight sur une échappée en fin de deuxième pour donner les devants aux Devils qui n'ont jamais regardé derrière par la suite. Les Devils qui l'ont emporté dans la forteresse des champions en titre de la Coupe Stanley, même s'ils n'ont lancé que 23 fois sur le gardien adverse. Les Devils qui remportent une 11e victoire cette saison. C'était seulement la 2e défaite en temps réglementaire subie à domicile par les Panthers depuis le début de la campagne. Auteur de son 12e but cette année, seul Sam Reinhart a été en mesure de noircir la feuille de pointage pour la Floride, qui a pratiquement le même dossier que les Devils, 11-4-1 contre 11-6-2 pour la formation du New Jersey. Donc, avec ce 12e but, Reinhart qui rejoint Cole Caulfield au sommet des pointeurs de la Ligue nationale, donc avec 12 buts. David Pastrniak lui a embarqué avec 1 minute 46 à faire en troisième période sur son 10e tir cadré du match. Et les Bruins de Boston qui l'emportent 3-2 sur les Blues de Saint-Louis. Les Bruins qui entament le dernier tiers en retard de 2 buts et affichaient un bilan de 0-7 lorsqu'ils tiraient de l'arrière cette saison après 40 minutes de jeu. Mais ils ont joué du hockey de rattrapage. Charlie McAvoy a également amassé un but et une passe, alors que Morgan Geekie lui a réussi le premier but de Boston. Jeremy Swayman qui a été crédité de la victoire avec 20 arrêts. Les Bruins qui ont maintenant un dossier de 4-1 et 1 à leurs 6 dernières sorties. Elias Pettersson lui a amassé un but et une passe dans une victoire des Canucks de Vancouver 3-1 sur les Flames de Calgary. Avec ses 2 points, il dépasse Bo Horvat au 10e rang des meilleurs pointeurs de l'histoire des Canucks avec 421 points. Le Kraken de Seattle qui est revenu de l'arrière en inscrivant 5 buts sans réplique pour l'emporter 5 à 2 sur les Blue Jackets de Columbus. Ty Carty, Brendan Tanev, Tolvanen, Will Borgen et Jared McCann ont tour à tour fait scintiller la lumière rouge pour les favoris locaux, alors que Joey Ducard a repoussé les 38 lancés pour la victoire. Et Ça, c'est ça de ce côté de la Ligue nationale d'hockey. Il y a eu transaction hier entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington. Et est-ce que les Penguins ont débuté leur vente de feu après seulement un mois d'activité, après leur dégelé de 7-1 face aux Stars de Dallas? Eh bien, Lars Eller retourne avec les Capitals de Washington, avec qui il a remporté la Coupe Stanley en 2018. En retour, les Penguins mettent la main sur un choix de 5e ronde en 2025 et un autre de 3e tour en 2027. Âgé de 35 ans, Ehlers donc effectue un retour avec les Capitals où il a joué durant 7 saisons entre 2016 et 2023, totalisant 200 points en 488 rencontres. Il a également remporté la Coupe Stanley en 2018. L'ancien 13e choix des Blues de Saint-Louis en 2007 a amassé 409 points en 1053 matchs en carrière. Il a également pris part à 103 parties éliminatoires. Il avait été acquis des Canadiens de Montréal à l'approche de la saison 2016-2017. Et on sait que lui, s'était amené à Montréal dans l'échange qu'avait envoyé Yaroslav Halak aux Blues de Saint-Louis. On parle de baseball un petit peu ce matin et des rénovations du Tropicana Field, qui est le stade des Rays de Tampa Bay. Il y a un rapport détaillé des dégâts provoqués par l'ouragan Milton qui indique que la structure du domicile des Rays est sécuritaire et que le toit pourra être réparé pour la somme de 55,7 millions. Le hic, c'est que ça va être prêt à temps pour la saison 2026. Hein? Ça va prendre un an. Un document de 412 pages diffusé par la municipalité de Saint-Pétersbourg, laquelle est propriétaire de l'édifice, indique que la structure du stade de baseball doté d'un dôme ne semble pas avoir été affectée sérieusement par les vents de l'ouragan, qui ont tout de même déchiqueté son toit, mais leur dit que la structure principale est récupérable, capable de supporter un toit de remplacement en tissu à membrane tendue. Alors, 18 des 24 panneaux en tissu ont été déchiquetés par les bourrasques de Milton le 9 octobre dernier. Des dégâts qui ont également été relevés à l'intérieur du stade en raison de l'eau de pluie et de plusieurs facteurs découlant des puissants phénomènes météorologiques. Stade qui a ouvert ses portes en 1990 et sert de domicile aux Rays depuis leur arrivée en 1998, doit déjà être démoli en vue de la construction d'un nouveau stade d'une valeur de 1,3 milliard et qui devrait être complété à temps pour la saison 2028. Donc, on répare le toit en mettant 55 millions pour une toile qui va durer 2 ans et qui va être démolie par la suite.
C'est ma Montréal.
Il y a des décisions comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Hein?
C'est des sous.
C'est des sous, là. T'es, pense-y. On met 55 millions dans une toile pour couvrir le stade. Dans 2 ans, on le met à terre. Parce que le nouveau est en train de se construire.
Mais bon. Est-ce que ça passe là-bas? Les gens trouvent ça bien du bon sens? Pas de mention.
Les conseillers ont approuvé. Je sais pas si vraiment la population est vraiment d'accord. De toute façon, Tropicana Field, il n'y a pas grand monde qui allait voir les matchs de baseball là. Est-ce qu'il y en aura davantage
en plus,
dans le nouveau stade? Évidemment, parce que c'est un stade fermé, c'est pas vraiment attirant, surtout quand t'es en Floride, t'sais, on s'entend. Est-ce qu'un stade à toit ouvert serait plus attirant? Je pense que le nouveau, il va être un toit rétractable. Ça va être plus intéressant. Mais là, à savoir, la question qu'on se pose, est-ce qu'ils vont jouer au Tropicana Field en 2025, même si le toit, probablement, j'imagine, durant les travaux, sont capables de jouer quand même. Alors, à suivre là-dessus. Et pour terminer, les élites sont en action ce soir dans le M18. Les élites qui reçoivent ce soir le Blizzard du Séminaire Saint-François au Foyer des loisirs. Le match est à compter de 19h. Et il y a les Raptors hier qui ont subi une autre défaite. En fait, l'affrontement des bas-fonds, parce que les Bucks de Milwaukee, ça va pas très bien non plus. Bien, c'est eux autres qui ont remporté la victoire face aux Raptors par le pointage de 99-85. Vous l'avez entendu avec ses il se joint à nous, Éric Lavoie. Comment ça va?
Oh, ça va bien, vous autres, les gars?
Ça va très bien.
Bonne humeur.
Mm-hmm. Ben oui, avec le soleil qui se lève, il va être là toute la journée. Hier, on a vu des parcelles de soleil. Après ça, les nuages sont arrivés, le soleil est revenu. Mais là, il va être là toute la journée, également demain. Ça va être plus frais, mais je pense que ça va faire du bien.
Oui, nuit plus fraîche, par exemple.
Ah, les nuits sont beaucoup plus fraîches. Mm-hmm. Puis surveillez également l'essence, hein, joue du yo-yo. Là. Il y a eu une augmentation début de semaine.
C'est vrai.
On est monté à 1,44 $. Hier, j'ai vu du 1,41 $. J'ai vu du 1,40 $. Il y a même une qui, je pense, s'est trompée. Quand ça a baissé, 1,41 $. Lui, c'est monté à 51.
Mm-hmm.
Pas sûr que ça a duré bien longtemps. Mais là, 1,40 $, 1,41 $, c'est le prix que vous devriez payer ce matin là, au niveau de l'essence ici à Saguenay.
J'ai posé une question hier au petit gars, à Pat, puis après ça, à Pat, à Dominique et Jean-Michel, Pat, qu'est-ce qui est la différence entre le mandat de Mme Néron et celui-là de Julie Dufour en ce moment? T'en vois-tu une différence? Je t'arrive avec ça à 6h30.
Non, ben non, j'en vois pas. J'ai beau chercher.
J'en ai trouvé une, moi. Je vais avoir ton idée là-dessus, puis tu pourras lancer d'homme si tu veux. Mm-hmm. Mme Néron, qu'est-ce qu'elle a fait dans son mandat? Elle a tenté de faire des projets, l'amphithéâtre, le bioparc. Chaque fois qu'elle est allée au public pour aller demander qu'est-ce que vous pensez de ça, inclure donc la population, qu'est-ce qui est arrivé?
Demander l'avis.
Non, ça, c'est sûr. Non. Je sens que Mme Tour, est-ce que sa stratégie, elle serait, de, avec les fonctionnaires, de sortir le moins possible dans la place publique pour tenter d'avancer des choses? Avec le silence qu'on a en ce moment.
Si c'est le cas, ça veut dire qu'il va sortir des affaires en tabarcelac en un an.
C'est ce que je pense, moi. Je t'explique pourquoi. On vient sur la rencontre hier des gens pour les commerçants de la racine. On apprend justement que là encore, il y a des scénarios. On regarde les scénarios pour déconstruire le stationnement du Havre. Et peut-être avoir des vues sur un autre. C'est sorti, entre autres, dans les médias qu'ils regardaient pour un autre terrain en arrière de l'hôtel Chicoutimi. Et on disait aussi qu'on était en train de regarder pour même acheter des bâtiments et tout ça. La mairesse, hier, a démenti directement en disant « Non, ça, c'est seulement qu'un plan B, ça. Ça, il faut avoir toutes les options quand ça va être la tête décidée. » Elle dit souvent ça, par exemple. Ça, je la crois là-dessus, d'après moi. Quand ça va être la tête s'asseoir, il va y avoir plusieurs choix. Et ils vont avoir l'info de tous les choix possibles. Mm. Je me demande vraiment, par exemple, au travers de ça, est-ce que c'est la mairesse qui dirige la ville avec les conseillers ou c'est plus des fonctionnaires? Que tu laisses les fonctionnaires travailler en ce moment.
C'est pas la première fois qu'on pose la question, à savoir si c'est pas les fonctionnaires qui ont le gros bout du bâton dans tout le développement qu'on veut faire à Saguenay.
L'exemple que je donne par rapport au stationnement, on voulait, la semaine passée, dans la rencontre de la ville, on veut dissoudre le comité qui est là pour justement étudier les projets, qu'est-ce qu'on peut faire dans la zone ferroviaire à Chicoutimi. Mm-hmm. Mais il y a eu une opposition vive, tu sais, des gens de Chicoutimi, des conseillers de Chicoutimi en disant non, on ne peut pas enlever ça, il faut que la politique soit toujours là. Parce que les autres vont amener ça à un endroit, est-ce qu'il va s'appeler un autre comité qui va s'appeler le GAGU? Ou est-ce que c'est à peu près la même chose, mais c'est les fonctionnaires qui sont là, qui présentent des projets, puis eux, les conseillers peuvent poser plein de questions. Mais elle a dit hier, à la réunion devant les commerçants, qu'ils sont en train de préparer tout le terrain pour que le sous-diviser, d'après moi, pour que eux, les gens intéressés, les entrepreneurs, amènent des projets. Des projets, qu'est-ce que vous voulez faire? Des appels d'offres, des appels de projets. Et ça va arriver bientôt. Et ce qu'elle a mentionné, c'est qu'il va y avoir un groupe que lui, il va être secret. On ne saura pas probablement qui est sur le comité, qu'eux vont évaluer ces projets-là. Et les évaluer, ça va être aussi selon des critères préétablis. On ne sait pas qui va faire ces critères-là. Mais quand on met des critères comme ça, c'est pas parce qu'on va prendre celui-là qui donne le plus d'argent pour le terrain. Donc, j'ai un petit peu peur à qui peut placer ses pions. Je vous parle souvent du Monopoly. Je me demande réellement, puis je faisais la comparaison avec d'autres gens hier. J'ai l'impression que la partie de Monopoly a commencé, mais il y a seulement qu'un pion ou deux qui jouent, qui achètent des terrains pendant ce temps-là. Un moment donné, les autres vont embarquer au troisième tour. Mais tu sais bien qu'au troisième tour, les terrains commencent à disparaître même pas vite, les beaux spots. Fait que je me poserais même des questions. Est-ce que c'est une bonne manière de marcher en voyant ce qui est arrivé avec Mme Néron? Je sais pas si c'est si mauvais que ça. T'sais. Oui, c'est le monde n'aime pas ça, ils s'y sentent à l'écart, mais je sens que cette dernière année-là, ça va opérer.
S'il y a du monde qui est sûrement à l'écart, ça veut dire qu'il y a peut-être des conflits d'intérêts quelque part.
Ou on veut avantager des gens pour toutes sortes de raisons.
Ben, c'est des conflits d'intérêts.
Oui.
Si tu avantages des gens, c'est parce que c'est ça du conflit d'intérêts. Ouais.
Fait que beaucoup de questions qui se soulèvent encore. Mais hier, ça a l'air que la mairesse était d'un aplomb incroyable sur ce qu'elle présentait. Puis les gens ont même pas su quoi répondre. Parce que elle a comme tout dit, les possibilités à peu près, mais en disant rien de précis. Puis les autres sont partis. Ils ont dit, bon, on va retourner dans nos commerces. Puis on n'en sait pas plus vraiment. Mm. On sait qu'il y a un scénario pour un plan B pour le stationnement. Ceux-là, c'est sur la rue Racine, la haute Racine. Nous autres, veulent garder le stationnement.
On a tout évalué, combien la construction ou la démolition, puis on va arriver avec les prix bientôt, puis après ça, on va prendre une décision.
Exactement. Mais ce que j'aime quand même pas, c'est que ça va être des gens au secret, avec des critères qu'on se pose. Peut-être qu'on
Pourquoi
va savoir
faut que
plus
ça
tard.
Soit secret?
Mais pour pas qu'il y ait d'influence. C'est ça qu'elle a dit. Mais si c'est elle qui est là, l'influence peut venir de son bord.
Ben, c'est ça.
Puis j'en viens toujours aux accusations, malheureusement. C'est ça qui est plate. C'est pas des accusations de limite de vitesse qui ont été données à Mme Dufour, c'est de la fraude électorale. Si tu peux mentir, si c'est le cas, elle a eu quand même trois constats, elle va se défendre.
Elle a eu trois constats.
Elle peut s'en sauver aussi, dépendamment de ce qui s'est passé réellement. Mais si c'est le cas, C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui peut peut-être jouer un petit peu avec les pions pour avantager quelqu'un ou peut-être pas aussi. C'est une question qui se pose.
La question se pose, oui, effectivement.
C'est difficile d'opérer en ce moment par ce manque de confiance-là, je trouve, par rapport aux accusations qui ont été portées.
Tout à fait. On va au téléphone, les gens qui veulent discuter avec nous. Oui, bonjour.
Hey, monsieur Wick.
Yes, oui.
Bonjour. Hey, qui c'est qui sont en train de faire des gros travaux en arrière de chez IGA au site d'épuration des eaux à la baie? Oui.
Oui, oui, oui.
OK. Toi, si ton boss donne un break de 15 minutes, tu poinçonnes à 10 heures, tu reviens à 10 heures et tard.
Ça ressemble pas mal à ça.
OK. Les autres, là, ils partent de chez IGA un gros troc, pas un petit troc, là, un gros croc, là. Ils sont deux gars dedans. Il a cherché du fromage en grain à Fromagerie Boisvin, un troc, deux trocs, des fois trois trocs.
Okay.
Il a cherché du fromage en grain à Fromagerie Boisvin, et d'abord du troc. Ils s'en viennent, ils prennent le vrai. On calcule tout à peu pour 40 minutes à les retours à le trip.
Là, je dirais, ben, honnêtement, mon ami, si c'est des employés oui. du GA, c'est IGA qui est le pire là-dedans s'ils ne contrôlent pas ses employés.
Non, c'est les employés de la ville.
OK, ceux qui travaillent. Ah, ben, ça, là. Malheureusement, ouais. tu sais, malheureusement. Ouais. On est surpris. Puis ils sont pas tous de même.
Ils sont partout de même. Ils sont sur le bord des trous. Les gars partent en train d'y aller chercher. Il me semble que quand tu travailles pour une business, si tout le monde ferait ça dans les petites business, ils fermeraient pas. Ça, c'est un vrai. C'est un vrai.
Ouais.
J'ai rendu chez les vrais de 40 minutes avec les trucks à aller chercher du repas en grain. Là. Ils travaillent à la ville, puis à New York, ils reviennent. C'est un manque de surveillance qu'ils ont, mais ça reste que c'est nos taxes.
Oui, mais ça doit être la vitesse. Il y en a qui s'y jugent pour eux autres, c'est la bonne vitesse de croisière. Il y a une couple de casses qui sont là, qui décident de...
C'est pas la première fois que j'en entends parler. Moi, j'ai entendu, puis même quelqu'un qui m'en a dit hier d'un haut placé de la ville, qui prend son pick-up de la ville, qui va faire son épicerie avec, puis il n'a pas de problème.
Oui. Il y en a même qui part de la baie, qui reste dans grand ligne, pas loin de chez Croft, là, le niveau de la Croft, là.
Oui.
Il y a le dîner chez eux avec cette drogue, puis il revient. Je suis bien d'accord que c'est deux trois, là. Mais en tabarouette, ça reste que c'est nos actes, puis que c'est notre corps.
Ouais.
On fait le domaine d'un an, une tabarouette.
Ben donc, j'imagine qu'on est riche si on est capable de dépenser comme ça.
C'est une culture, hein.
Monsieur,
c'est
une culture. On est riche comme on a jamais été à ville. On se jouait le luxe.
Ah, on va être encore plus riche bientôt avec les taux de taxation. Là.
Ouais, tout à fait.
On a ajusté aussi les évaluations des gens.
Et merci.
Ben, merci.
Vous souhaite une très belle journée puis merci de nous écouter. On vous écoute dans le parc industriel à Chicoutimi.
Ah, ben, lâchez pas.
Lâchez pas, gang du parc.
Bonne fin de journée. Il est 6h39. La pause est dans quelques instants. On va faire le tour de l'histoire pour un 13 novembre dans les éphémérides.
Au 92.5. Les plaisirs démodés avec Mario Vézina.
L'entrepôt du plancher SG est fier partenaire de votre émission Les plaisirs démodés. Et pour souligner la fidélité de tous les auditeurs de cette émission de bonheur, l'entrepôt du plancher SG vous offre 10% de rabais sur votre facture dès que vous direz Les plaisirs démodés, c'est mon émission préférée. De plus, tournez la roue et obtenez jusqu'à 25% de rabais supplémentaires sur vos achats. L'entrepôt du plancher SG, le seul entrepôt de plancher 2700 boulevard Talbot Chicoutimi face au club de golf de Chicoutimi. N'oubliez pas de dire « Les plaisirs démodés, c'est mon émission préférée ». Et oui, 10% de rabais sur votre facture.
Quand on porte des prothèses dentaires depuis trop longtemps, Dominique, on peut se rendre compte que notre visage se transforme, que mastiquer peut-être devient plus difficile.
En fait, Annick, je dis toujours que c'est pas nécessaire d'attendre de perdre son dentier en soufflant sur les bougies de son gâteau d'anniversaire pour penser à le changer. Je vous dis ça avec humour, mais à titre de denturologiste, je vous invite sérieusement à faire attention à votre bouche, à la santé de vos gencives, à votre système digestif aussi. Tout a un lien. Attendez pas que vos prothèses soient trop usées.
À la clinique Mondenturo de Jonquière, la première consultation est gratuite et sans aucune obligation. N'hésitez pas à poser toutes vos questions.
Salut, ici Roger Lemay. Tous les dimanches matins, entre 9h et midi, ben j'ai le plaisir de vous présenter sur les ondes de CKJ mon émission intitulée « Roger le dimanche ». Des infos, la météo, des anecdotes, un peu d'histoire, mais surtout des mélodies d'hier à aujourd'hui qu'on revisite ensemble dans la bonne humeur. Des entrevues aussi avec des personnalités qui vous inspirent. « Roger le dimanche », quand les succès d'hier vous font vibrer encore aujourd'hui. « Roger le dimanche », c'est votre dose hebdomadaire de chansons ensoleillées, peu importe le temps qu'il fait dehors.
La météo, une présentation de Kia Harold Auto, 693-8050.
Prenez le contrôle de la route avec le Kia Sportage 2025 de chez Kia Harold Auto. Le plaisir de conduire intégral. Maintenant disponible chez Kia Harold Auto, 418-693-8050. Kia, du mouvement vient l'inspiration.
92.5 Météo!
Côté de la météo pour aujourd'hui, ce sera du soleil avec des maximums de moins 1 refroidissement éolien à moins 14 ce matin. Demain, du soleil, maximum aussi de plus 1, des refroidissements éoliens à moins 18 le matin. Alternance soleil et nuages, vendredi 30% de probabilité d'averse, maximum de plus 1. Samedi, des nuages, max de plus 4, même chose pour dimanche. On a moins 7 au Saguenay, moins 8 avec les vents, moins 8 au lac, moins 12 avec les vents.
Ma radio d'ici. Par une journée comme aujourd'hui, un événement, une personnalité, voici les éphémérides du jour.
Pour un 13 novembre, le jour de la garance, qui est une sorte de plante cultivée pour la teinture rouge extraite de ses rhizomes. Donc, jour de la garance en ce 13 novembre. Bonne fête aujourd'hui au Brice. Brice Denis, puis toute la gang, BRICE, ou Bryce, également au niveau anglophone. Pour Brice de Tours, qui était évêque de Tours, disciple et successeur de Saint-Martin. Donc, il faut remonter quand même au 5e siècle, là, devenu Saint-Brice, Saint-Chrétien qui a grandi au monastère de Saint-Martin et qui est décédé en 444. La Une du journal en 1991. On était également un mercredi, 13 novembre 1991, et on parlait de la financière, service financier, le siège social qui était à Alma, qui perdait 48 emplois. C'était quand même une lourde perte de ce côté-là. Meurtre à Roberval, le policier Labrec juge Kim Boulian dangereux. Valinouet, le syndicat, va faire sa part. Et faillite de l'ancien conseiller financier du groupe LMB, la Banque Royale, qui perd 330 000 $. Donc, des grosses pertes en ce 13 novembre. Il y a 33 ans.
Du côté des naissances, 1833, Edwin Booth, acteur américain, son frère John Wilkes Booth a assassiné Abraham Lincoln. Mais quelques années avant, Edwin avait sauvé la vie de Robert Lincoln, le fils d'Abraham, en l'empêchant d'être percuté par un train.
Spécial, pareil, hein?
Trop trop sable. Incroyable. Je sais pas si c'est un hasard aussi qu'il soit là en même temps.
Puis... Oui, absolument. 1848, Albert Ier, prince de Monaco, de 1889 à 1922. 1850, Robert Louis Stevenson, écrivain britannique, auteur de L'île au trésor, qui a eu plus d'une vingtaine d'adaptations au cinéma et à la télé. D'ailleurs, c'est à ce roman-là qu'on doit l'image des pirates. T'sais, île déserte, carte au trésor, marquée d'un X, perroquet sur l'épaule, jambes de bois.
C'est lui.
C'est ça, parce que c'était pas vraiment le cas. Okay. Aussi, auteur de L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Là aussi, une trentaine d'adaptations. 1912, Claude Pompidou, épouse de Georges Pompidou, 19e président de la République. 1922, Madeleine Sherwood, actrice québécoise qui a fait carrière aux États-Unis, mais née à Outremont et morte à Saint-Hippolyte à l'âge de 83 ans, jouait sur chatte sur un toit brûlant et faisait la mère supérieure dans la sœur volante.
Oh!
1931, André Lachapelle, l'actrice québécoise qui était dans Le ventre du dragon. Jésus de Montréal, Léolo, La passion d'Augustine, Rue des Pignons, Le temps d'une paix, La maison des chaînes, Super Samplon, Scoop, Le volcan tranquille, Diva, Emma, L'auberge du chien noir, La galère et Yamaska. 1934, Gary Marshall, acteur américain et réalisateur de Pretty Woman. Mm-hmm. Happy Days, la série. Laverne et Shirley. Je vous parlais de générique dans Wayne's World, là, quand tu vas voir cette série-là. Okay. Mark and Mindy, dans laquelle on a découvert Robin Williams, qui jouait un extraterrestre, qui était marié avec une femme normale. 1940, Daniel Pilon, acteur québécois, frère de Donald, qui a fait carrière aux États-Unis, a même joué dans Dallas, Des jours et des vies.
Quand même.
Bonanno. Et Lancé contre la revanche, faisait le premier ministre.
Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était Daniel Pilon qui jouait là-dedans, t'as raison.
1947, Joe Mantegna Jr., acteur, producteur, scénariste et réalisateur américain, qui a fait La foire au malheur, Les Trois Amigos, Le Parrain 2, Radio Rebelle, et fait la voix de Gros Tony en anglais dans Les Simpsons.
Ah, OK.
1950, Gilbert Perrault, joueur de hockey québécois. 1951, Pierre Arcan, homme politique québécois, frère de Paul Arcan. député du Parti libéral, chef intérimaire du Parti libéral du Québec après le départ de Philippe Couillard.
Également, il a travaillé dans la radio aussi avant.
1955, Karen Ellen Johnson, mieux connue sous le nom de Whoopi Goldberg.
Et Colin, on est ailleurs, hein?
Très ailleurs.
Karen Ellen Johnson.
Ouais. La couleur pourpre, son premier film, Mon fantôme d'amour, Rock'n'None, Star Trek Nouvelle Génération. Et hier, j'ai vu une photo très drôle de Wookie. Oui. Goldberg. Donc, un mélange de Whoopi Goldberg et un Wookie.
Ça me fait ça aussi. Oui.
C'était quelque chose.
Ouais.
1956, Aldo Nova, musicien-chanteur canadien qui a travaillé avec Patrick Bruel, Garou et Céline Dion. 1959, Caroline Goodall, actrice anglaise qui a fait Capitaine Crochet, La liste de Schindler et Le journal d'une princesse. 1967, James Christian Kimmel, Jimmy Kimmel, humoriste et animateur de télé, animateur du Jimmy Kimmel Live depuis 2003. Et en 2019, il est devenu maire d'une ville du Canada.
Hein? Ah ouais?
Maire honoraire de Dildo.
Ah, tabarnouche.
Parce qu'il trouvait le nom drôle. Population 803, puis eux autres, ils nomment un maire.
Okay. Le nom.
Fait qu'il l'avait nommé. La même année, Steve Zahn, acteur américain qui a joué dans un de mes films préférés, That Thing You Do, de Tom Hanks, où ils font la musique des années 60. Vous avez un message. Sécurité nationale, garderie en folie, Dallas Buyer Club, La planète des singes. Suprématie. Il doit faire un singe parce que je ne me rappelle pas y avoir vu la face là.
Non, moi aussi.
1969, Gérard Butler, acteur britannique qui a fait Demain ne meurt jamais, Lara Croft, Le berceau de la vie, Le fantôme de l'opéra, Beowulf et la série 300. Ben, la série de films 300. Quoi, qu'il était-tu dans le deuxième?
300?
Je pense qu'il n'est pas dans le deuxième.
Je pense que non. Je pense qu'il est
sur le bord. Non, je pense que c'était après. Ouais, je pense que c'était après.
Oui.
Parce qu'il avait été avant, il aurait pu.
Il était 300, puis il restait plus à faire.
1980, François-Louis Tremblay, patineur de vitesse québécois sur courte piste, qui est né à Alma. 5 médailles d'or, 5 médailles olympiques. 2 d'or, 2 d'argent, 6 médailles et 2 de bronze. On parle souvent de Marc Gagnon, mais ils ont quand même le même nombre de médailles.
Ouais, quand même.
1984, Sarah Rose Carr, actrice américaine qui fait la petite fille dans Un flic à la maternelle, la petite fille dans Le père de la mariée et la petite fille dans Beethoven 1 et 2. On l'a pourvu depuis qu'elle n'est plus une petite fille.
Ah, ok, oui, c'est cette petite-là, d'accord. Ouais.
Du côté des décès, 1868, on va essayer de le dire. Gioacchino Rossini, compositeur italien, un des plus grands compositeurs d'opéra qui a fait Le Barbier de Séville, Cendrillon et Guillaume Tell. 1903, Camille Pissarro, peintre français impressionniste. 1989, François-Joseph II, prince du Liechtenstein, de 1938 à 89.
Hey boy, OK, 51 ans de pouvoir, wow.
1991, Paul-Émile Léger, archevêque de Montréal de 50 à 68. 1994, Patrick Esposito di Napoli, musicien d'origine française, harmoniciste des colocs. Mm-hmm. 2000, Roger Crouzet, comédien français qui a joué dans Mesrine et Un crime au paradis, un de mes films préférés. 2004, Old Dirty Bastard.
Il a tout le nom.
De son vrai nom, Russell Tyrone Jones, chanteur du groupe Wu-Tang Clan. Ils ont sorti un album, je pense, en 2020. Une seule copie.
Hein?
Oui, oui, j'ai entendu parler.
Je pense qu'ils ont vendu 250 000 $
Chose c'est de même, quelqu'un qui est riche quand même, une célébrité qui l'a acheté.
Imagine, tu l'achètes, tu le mets en MP3, tu le vends.
Oui.
Ah oui.
2015, Georges Hébert Germain, journaliste et écrivain québécois. 2021, John Pearson, écrivain britannique, assistant de Ian Fleming, qui l'a aidé à créer James Bond. Et 2022, Anthony Johnson, combattant d'arts martiaux mixtes, décédé d'une défaillance de ses organes, alors qu'il était encore en pleine forme et qu'il combattait. De coup, tout a lâché.
Hey boy, OK. Hey, dans le monde de la chanson, c'est quand même assez tranquille.
Il
hein?
a dit coloc.
Il a dit les colocs. Une chance qu'il y avait ça, parce qu'avant, il n'y avait rien. Là.
Il me semble que je n'ai même pas entendu un. C'est le premier nom que j'ai entendu.
Je pense que oui.
Au pire du pire, on aurait pu prendre Marilyn Monroe parce qu'elle ne chantait Pompidou.
Ouais, c'est vrai.
T'avais Aldo Nova aussi.
On serait plus ou Whoopi Goldberg avec la chanson Rock'n'None. Ça aurait pu être ça aussi.
My Guy.
My Guy aussi, oui, effectivement. Mais je pense qu'on va y aller avec les colocs ce matin pour Patrick Esposito di Napoli qui nous quittait il y a exactement quoi, c'est 30 ans déjà, hein, en 94, oui. Lui qui est décédé du sida. Mm-hmm. Puis on a le choix, vraiment.
Ben, il y en a une qui chante.
C'est laquelle,
oui, hein? C'est positif Boogie. Je ne sais pas si on l'a, par exemple.
Oui, on l'a.
Oui?
On l'a.
Ben, c'est lui qui chante.
En plus, j'aime ça. Chant gauche, vois-tu. On n'entend pas tout le temps, celle-là.
Alors, voici les colocs. Séropositif Boogie. Où on va entendre la voix de Patrick Napoli, qui est un blues. Français. Oui.
C'était un soir près de la gare Montparnasse. Ce soir, beau soir, cafard de juin. Ce soir, mon pote, c'est pas très jouasse. Juste l'heure, la sortie du turbin. Avec moi-même, j'avais un tyrancari. Histoire de voir mon bilan santé. Pas de chance, mec, t'es vraiment tricard. Me disais-le, tu vivais bien, tu la pognes. C'est au positif, bogey. C'est au positif, bogey. C'est au positif, bogey.
Les colocs et la voix de Patrick Di Napoli.
L'homme en Monica.
Oui, exactement, exactement. Donc, il avait sa chanson, Séropositif Boogie. Ça parlait vraiment, évidemment, de lui, hein, qui est mort malheureusement.
Il a tellement été important aussi pour les colocs par son jeu
et son chansons. Et son départ a fait extrêmement mal.
Oui, c'était le début de la fin.
Ça a été le début de la fin, ça oui. Et la défaite du référendum.
Oui.
Ça a été les deux coups de masse que Dédé Fortin a eu. Et qui l'a traîné dans les dernières années jusqu'à décider de se donner la mort quelques années plus tard. Tu sais, quand tu regardes le fil de l'actualité, on est loin de tout ça, mais Napoli est mort en 94, tu as eu le référendum en 95, Dédé est mort en 2000. Ça va faire 25 ans l'année prochaine qu'il est mort déjà. Ça va vite. C'est-à-dire, on a passé presque un demi-siècle depuis ces événements-là qui ont eu lieu dans un court laps de temps. Là. En 6 ans, c'est ça qui est arrivé. Les colocs qui étaient vraiment au top avec, il y a eu le premier album, il y a eu le second. Tu as eu Donne d'or novembre qui a frappé extrêmement fort où c'était un peu le testament des colocs et de Dédé Fortin et où il racontait toute sa souffrance là-dedans. On comprenait pas trop.
On a rarement écouté un album de même après à quel point le sens a changé.
De réécouter puis après son décès pour dire « Oh, tabarnouche! » Tous les petits messages qu'il envoyait, et le, qui criait à l'aide, ouais. Finalement, tu sais. Puis finalement, on... malheureusement, il était trop tard.
Des chansons comme Belzébuth, Le Répondeur.
Le Répondeur. Le Répondeur, là, c'est...
Belzébuth, le minou, oui. À la fin, il se fait un job.
Oui, oui, tout à fait.
Puis c'est pas positif, là, c'est pour arrêter tout ça. Là.
C'est pour arrêter tout ça.
Oui, ça m'a ébranlé beaucoup. Je connaissais ça à le moment, je voulais pas trop l'écouter au début. Je trouvais trop sombre. Il y a de quoi j'aimais pas là-dedans, puis j'ai compris pourquoi j'ai appris.
Parce que quand t'écoutes le premier album, par rapport au dernier, écoute, t'as un virage à 180 degrés.
Ouais. Là. Party. Avant, c'était les colocs, le party.
C'était le party.
Mais malgré tout, t'écoutes les paroles du premier album, c'est pas toujours...
Non, c'est rose,
même si c'est joyeux,
c'était
la musique.
Pas un homme heureux de base, disons. Là. Je pense qu'il y avait peut-être des démons à l'intérieur de lui, je crois.
Mais t'sais, juste une petite nuit, c'est une peine d'amour, t'sais. Mm-hmm. C'est pas super
la
de
rue
ce côté-là.
Principale.
La rue
principale. Ça va pas bien dans le village.
Ça va pas bien dans le village, t'as raison.
C'est une chanson de fun pour le monde, quand en réalité, c'est un village qui se meurt.
Ben, mauvais caractère.
Ben oui.
T'sais, mauvais caractère, là, le gars, il sait qu'il est bougon. Mm-hmm. Pis, mais ça a été un peu ça. Mais Julie,
Après ça, deuxième album, Bon Dieu.
Ouais, il y a eu Bon Dieu. Passe-moi à Pac.
Passe-moi à Pac.
Je dirais que c'est un des gars, peut-être, dans mon époque, de mon âge, c'est pas loin, New York, Pat, là, qui était le plus près, un peu, de nous autres, au point de vue des textes, de la monde, surtout la gang qui reste à Montréal, dans ce coin-là. Ces jeunes-là, ça parlait directement de nous autres.
Puis il allait sur ce terrain également. T'sais, quand tu regardes le clip Bon Dieu, là, lui, il s'est informé. Bon, moi, je veux prendre des personnes dans mon vidéoclip, puis je vais prendre des gens dans la rue ou des gens qui sont sur le bien-être social. Il dit, c'est combien...
En fait, il prenait des sans-abri.
Des sans-abri, oui. Puis ça, puis il dit, c'est con... Mais il y avait également une couple d'assistés cité sociaux parce qu'il s'était informé. Combien je peux leur donner sans qu'ils soient coupés? Puis je pense le maximum, c'était 200. Parfois, ils m'ont donné toutes 200$. Puis quand vous voyez le clip Bon Dieu où ils prennent des lettres puis ils changent de place, là, c'est tout des figurants. Là. Okay. C'est des mondes qui ont ramassé dans la rue, des assistés sociaux pour dire, gars, on va au moins leur donner quelque chose à faire puis une raison de d'avoir du fun peut-être, puis de s'amuser, puis en ayant un petit peu de sous avec ça. Donc, lui, il avait tout mis son argent là-dedans.
Robin Williams faisait ça aussi. Dans chacun de ses films, il fallait qu'il y ait un sans-abri qui soit engagé.
Oui.
T'as raison.
Figurant ou quoi que ce soit.
Je même si on essayait de venir dire, non, ça prend pas ça. C'est choix, c'est moi ou c'est avec la monde, c'est pantoute.
Exactement.
Il a tenu ça jusqu'à la fin, ça.
Il a tenu ça jusqu'au bout. Tout à fait. Tout à fait. C'est tout en son honneur.
Puis Bon Dieu, quand tu parles, tu parlais de vidéo, c'est quand même, ça fait jaser. Puis t'as bien fait, c'était bien fait,
cette vidéo
avec les pancartes qui donnaient des sens avec les paroles des textes qu'il chantait.
Puis c'est lui qui produisait, là, tu sais. Quand on regarde un peu le making of,
cinéaste,
là, il mettait la caméra là, puis il dit, OK, on y va. C'est lui qui faisait tout le montage. Tu as raison, c'est un cinéaste déjà. Et